Et ce dont on va parler ce matin dans le message que j'ai pour vous, qui est Jésus? Et on va parler de Jésus ce matin parce que vraiment, Jésus, il est tout en tout, hein? Il est la source de toute chose. Il est vraiment spécial. Puis vraiment, quand on prend du temps à étudier la personne de Jésus-Christ, dans notre intérieur se produit quelque chose d'inexplicable. Parce que Jésus-Christ, vraiment, c'est la plus grande personne de l'univers. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quel est le plus grand verbe qui existe? Aimer. D'autres? Pardon? Quelque chose d'autre? Servir. Croire. Repentance. C'est toutes des bonnes réponses, mais ce n'est pas la réponse. Parce que la réponse, vous allez tout être d'accord avec moi, le plus grand verbe qui existe, c'est le verbe être. Parce que si on n'est pas, rien n'est possible. Si on n'est pas, on ne peut pas aimer. On ne peut pas servir. Le plus grand des verbes, c'est le verbe être. Et le titre de message ce matin que j'ai pour vous, c'est « Il était, il a été, il est et il sera ». Être, le verbe être. Je suis celui qui est. Être. Tournez avec moi dans vos Bibles ce matin dans Colossiens 1. Et mon nom est Danny Desrosiers, je suis membre de l'église de Rimouski. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis diacre là-bas. Et non, je ne suis pas le pasteur officiel. Mais oui, je suis un prédicateur laïque depuis plusieurs années. Et quand on m'appelle, je dis oui. Amen. Colossiens 1. Verset 12. Et merci pour votre invitation ce matin. Merci à Pasteur Luc, merci aux leaders pour votre confiance. Colossiens 1, verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Seigneur, on te remercie pour ta parole inspirée par le Saint-Esprit et merci surtout qu'elle s'est rendue jusqu'à nous en 2024. Elle a encore la puissance pour briser nos cœurs de chair, pour parler à notre âme, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous enligner, pour nous guider, pour nous donner une forte fondation sur laquelle on peut se tenir malgré les vents contraires. Et ce matin, on te prie de bénir cette parole dans le nom puissant de Jésus. Et tous on dit?
Amen.
Amen. Une des questions fondamentales en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, c'est son identité. Qui est Jésus? Et la réponse à cette question, ou la question se posait déjà alors que Jésus était sur la terre. Jésus, alors qu'il rencontrait ses disciples dans le territoire de Césarée de Philippe, leur posa la question suivante. Dans Matthieu 16, le verset 13, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et depuis des siècles se sont écoulés, et à cette question a résonné parmi les hommes plusieurs réponses à cette question, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pour certains, il est l'enfant dans la crèche, le petit Jésus. Pour d'autres, il est ce personnage sur le crucifix, le petit Jésus de Plâtre. Pour l'archéologie ou l'archéologue sérieux, il est un personnage historique. Pour l'historien, il est un personnage réel, confirmé par l'archéologie et l'histoire. Pour l'islam, c'est le plus grand des prophètes. Pour le témoin de Jéhovah, c'est un être créé. Mais pour toi, pour nous, mais en fait, qui est réellement Jésus-Christ? Qui est Jésus? À cette question, l'apôtre Pierre a fait une déclaration qui est devenue vraiment le fondement de la foi chrétienne. Et on le voit dans Matthieu 16, le verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, en d'autres mots, sur cette déclaration que tu viens de faire, je vais bâtir mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Malgré les assauts, malgré les attaques contre son Église, toujours, elle demeurera, parce que Jésus-Christ est sa fondation et qu'il est éternel. Depuis cette réponse de Pierre, qui a été validée par Jésus-Christ lui-même, cette déclaration est également devenue ma réponse. Et la réponse de milliards de personnes qui ont cours au cours des siècles à la question qui suivante, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pour moi, Jésus-Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Ça m'amène à vous parler d'une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. C'est outre la confirmation de l'identité de Jésus comme Fils de Dieu par Jésus lui-même, y en a-t-il d'autres, en dehors de cette déclaration de Pierre, d'autres éléments qui pourraient valider cette réponse de Jésus? Pour moi, personnellement, cette réponse de Jésus me suffit. Mais pour les sceptiques, y aurait-il d'autres évidences confirmant le fait que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Pour valider, allons voir ce que Christ a dit à propos de ses origines. Ça m'amène à mon premier point, il était. Jésus, avant de naître, il était. Tu dis là, moi avant de naître, j'étais pas. Non, mais Jésus, oui. Jean 3:12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 8:56 nous dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. » Mais il m'a vu venir. Il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il était. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 16, le verset 27, et on va aller beaucoup de versets aujourd'hui. Jean 16, verset 27 nous dit, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je retourne au Père. » S'il retourne, c'est parce qu'il y était déjà. Jean 17:1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Avant que le monde soit, il était. Jean 17, verset 20 nous dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Ça fait beaucoup de « un en l'autre », hein? « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est approprié ta chanson, ça fit bien. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où que je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Christ était. Dans l'éternité, Jésus reflétait la gloire du Père en tout et en tout temps, vivant en parfaite harmonie dans cette sainte Trinité en tout temps. Il était riche. 2 Corinthiens 8:9 nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Évidemment, sa pauvreté n'a pas été matérielle. Sa pauvreté, c'était de se faire homme, de dépendre de sa mère pour sa nourriture, lui le créateur de toute nourriture, d'être limité par les limites d'un corps humain, lui qui est illimité, lui le divin, se faire homme. Sa pauvreté n'était pas matérielle. De même, sa richesse n'était pas et n'est toujours pas matérielle. Prédicateur de prospérité. Bien qu'il ait créé et qu'il possède tout ce qui est matériel. Christ était et est toujours riche. Il est riche en sagesse, car Christ est la sagesse de Dieu. Il est riche en puissance. Il est riche en amour. Il est riche en gloire. Il est riche en ressources, car tout lui appartient. Il est riche en puissance. Il est riche en créativité. Il est riche en diversité. Il est riche en ingéniosité. Du minuscule au majuscule, il a tout conçu dans les moindres détails. Il est extrêmement ingénieux, notre Jésus. Il est riche en science, la mathématique, la physique, la chimie vient de Christ. On peut tout expliquer ce monde par une formule mathématique, parce que Jésus-Christ est le plus grand des mathématiciens. Il est riche en exécution. Ce qu'il dit se produit. Il prononce et la chose devient. Romains 1:20 nous dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Les ouvrages de notre Dieu sont extraordinaires. Si vous rentrez dans une grotte aujourd'hui et que vous voyez le mot poulet écrit, P-O-U-L-E-T, votre réaction sera « un être intelligent est passé par ici. Il a eu l'intelligence pour écrire le mot poulet. » Notre code génétique humain, c'est un alphabet de plus de 3 milliards de lettres dans une séquence parfaite. Et on dit que tout cela vient de nulle part. Poulet, il y a une intelligence. 3 milliards de lettres, ce que ça devient, ça. Ça s'est auto-évolué. Ça s'est auto-créé. Tu sais, là, il marchait, puis à un moment donné, il disait, « Oups, j'aurais besoin d'un bras, ce serait le fun. » Puis là, le bras a poussé tout seul. C'est ça que c'est? Non, c'est Christ qui a tout créé. À propos de Jésus, la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, déclare ceci. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, name it, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On peut donc conclure que, puisque tout a été créé par Jésus et pour Jésus, ses ouvrages, la puissance éternelle, la divinité de Jésus se voient comme à l'œil nu depuis la création, depuis la nuit des temps, avant la création de toute chose, Christ était. Christ était. Puis, le temps, la matière, l'espace ont été créés. Le temps par le au commencement. C'est difficile pour nous à comprendre. On va vous l'expliquer. Vous allez tout comprendre. Le temps. Christ est en dehors du temps. Vous voyez? Le temps commence là. Tic-tac, tic-tac. Mais lui, il est en dehors du temps. Parce qu'il est en dehors du temps, là, c'est présent. Là, c'est présent. Tout le temps présent. Il a créé le temps au commencement. Il a créé l'espace pour y mettre la matière. Et ensuite, il a rempli l'espace de matière qui occupe l'espace. Il est avant le temps, Mais depuis que le temps est temps, Christ a été. Christ a été présent dans le temps avant de naître. Avant que le temps soit, il était. Et lorsque le temps a été, Christ a été aussi dans le temps. Vous êtes-tu mêlé? Avec du temps, vous allez comprendre. Christ a été, parce que oui, on voit Christ dans l'Ancien Testament. Hein? Christ, c'est pas juste dans le Nouveau Testament. Non, on voit Christ dans l'Ancien Testament. Dans certains contextes, plusieurs théologiens. Et là, je dis bien plusieurs théologiens. Je ne dis pas tous les théologiens. Donc, si vous trouvez un théologien qui dit contraire de ce que je vais vous dire, ne venez pas me lancer des pierres. Plusieurs théologiens sont d'accord pour dire que les événements suivants sont possiblement des apparitions, des théophanies qu'on appelle, ah, théo pour Dieu, fanie, apparition, des théophanies, des apparitions de Dieu, et que c'était Christ, en fait, qui s'est manifesté sous cette forme, non pas dans un corps charnel, mais dans un corps spirituel. L'ange de l'Éternel, on fait référence à ça dans l'Ancien Testament, quand on fouille la racine hébraïque ou en hébreu du mot « ange de l'Éternel », c'est « Malak Yahweh ». Malak pour ange, Yahweh pour Dieu. Les autres anges, on réfère à ces anges comme Malak seulement, sans le mot Yahweh. Donc, conséquemment, c'est pour ça qu'on en déduit que lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu. Malak Yahweh. Et étant donné que c'était le rôle du Fils de venir sur la terre, on conclut que c'était possiblement le Fils de Dieu sous une apparition dans un, soit corps d'ange ou un corps d'homme. Ou apparition d'ange ou apparition d'homme. Ça va? De plus, dans certains contextes, l'ange du Seigneur est identifié au Fils de Dieu parce qu'il possède des attributs de Dieu. Comme si je vous dis « je donne la vie » à partir de rien, vous direz « oh, tu as une puissance » qui est attribué seulement à Dieu. Et étant donné que je n'ai pas cette puissance-là, je ne suis donc pas Dieu. Et tout le monde dit « Amen ». Mais si un être a cette capacité de donner la vie, notre conclusion pourrait être « il s'agit de Dieu ». Et c'est pour ça que dans Genèse 17, on voit qu'il a le pouvoir, cet ange de l'Éternel-là, de donner la vie lorsqu'il dit à Abraham, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je multiplierai à l'infini. » Donc, il va donner la vie. Seul Dieu a le pouvoir de donner la vie. Deuxièmement, on le voit souvent comme connaissant toutes choses. On voit ça dans Exode 3, verset 2. « L'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Donc, il connaissait la douleur du peuple et la qualité d'omniscience ou de tout savoir est normalement attribuable à Dieu. Agar l'a nommé Dieu. On voit ça dans Genèse 16, lorsqu'il lui a parlé, elle appela cet ange-là Atai El Roi. On voit ça dans Genèse 16, 13. Et Atai El Roi, roi, ça veut dire tu es le Dieu qui me voit. On dit également que Jacob aurait lutté avec lui dans Genèse 32, 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et au verset 30, ça dit « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvé. Josué se serait prosterné devant lui dans Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. On se prosterne devant Dieu. Et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Il l'appelle mon Seigneur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Mais une chose est certaine, si vous n'êtes pas d'accord avec que c'était possiblement Jésus-Christ, il y a une parole dans le Nouveau Testament qui est claire sur le fait que Jésus-Christ était présent dans l'Ancien Testament avec le peuple de Juifs. Et on va la regarder ensemble dans 1 Corinthiens 10, verset 1. Il dit ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce qui les suivait, c'était cette nuée, et ce rocher était Christ. » Tiens-toi si tu veux, là, mais pas mal clair, là. Pour moi qui l'a dit, là, et Paul. Christ était présent dans l'Ancien Testament. On pourrait même dire que Christ était présent dans la fournaise avec Shédrach, Meshach et Abednego. Daniel 3, 25 nous dit, il reprit, il dit, « Eh bien, je vois quatre hommes. On a tiré trois en dedans, mais j'en vois un quatrième qui marche au milieu du feu et qu'ils n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle des fils de Dieu. D'un fils des dieux, excusez, d'un fils des dieux. Et ce même fils de Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité qui s'est manifestée sous forme d'un homme, les prophètes en avait annoncé la venue parmi nous, lorsque Michée, dans 5.1, nous dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens. » Au jour de l'éternité, dans l'éternité, Jésus était. Dans l'Ancien Testament, Jésus a été. Jésus, dans l'Ancien Testament, serait venu sous la forme d'un homme, mais lors de son incarnation, il s'est fait homme. D'où l'importance de la défense de la doctrine de la naissance virginale de Christ. Parce que Christ était déjà, donc il n'a pas été conçu dans le sein de sa mère par une relation sexuelle entre un homme et une femme, mais il a été conçu par Dieu. C'est impossible humainement. Oui, mais on ne parle pas d'humainement, c'est divinement possible. Le Père l'a envoyé. Jean 5, 36 nous dit ça clairement. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. On connaît tous Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Verbe incarné. Il est une parole. Il est le verbe être. Et ce verbe être-là, c'est incarné. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus-Christ a été. Jésus-Christ avant était. Jésus-Christ a été. Il a été fait chair. Il a été parmi nous. Il a été tenté en toutes choses. Il a été saint en toutes choses. Il a été le reflet parfait du Père en tout temps pendant sa vie sur la terre. Il a été compatissant. Il a été sommelier par excellence, servant les meilleurs vins lors des noces. Il a été médecin pour les lépreux, les paralytiques et les aveugles. Il a été sans pitié pour les démons. Il a été l'hôte d'une multitude avec 5 pains et 2 poissons qu'il multiplia. Il a été source de calme dans la tempête. Il a été abusé, abandonné. Il a été meurtri. Il a été bafoué. Il a été trahi. Il a été craché dessus. Il a été couronné d'épines. Il a été crucifié. Il a été sacrifié. Que ta volonté soit faite a été son modus operandi. Non pas la mienne, et notre génération aurait de grandes leçons à tirer de cela. Non pas la mienne. Voilà ce qui guidait ses moindres gestes, ses moindres pensées, ses moindres paroles, que ta volonté, Père, soit faite et non pas la mienne. Il a été enterré. Et parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Il est auprès du Père. Christ était. Christ a été, mais il est. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il est mon intercesseur. Il est mon avocat auprès du Père. Il est ma lumière. Il est ma source. Il est mon refuge. Il est ma haute retraite. Il est ma forteresse. Il est mon abri. Il est mon espoir suprême. Il est pleinement suffisant. Il est pleinement satisfaisant. Il est plein de gloire. Il est glorieux. Il est suffisant. Jésus-Christ est tout en tout. Jésus était. Jésus a été. Et Jésus est, frères et sœurs, et parce qu'il était, parce qu'il a été, et parce qu'il est, nous pouvons mettre notre foi dans le fait qu'il a promis qu'un jour, il sera le roi de gloire, il sera de retour dans les airs au son de la trompette, il sera de retour pour venir chercher une église triomphante, il sera de retour pour ceux qui attendent sa venue. Jésus-Christ sera de retour, frères et sœurs. Réjouissons-nous dans ce retour, réjouissons-nous dans cette promesse. Il sera de retour dans les airs. Acte 1:11 nous dit, et dire ces hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il sera visible à nos yeux. Notre foi deviendra visible. Nous le verrons tel qu'il est, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa royauté. Il sera sur un cheval blanc. Il sera visible sur la nuée. Apocalypse 1 nous dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il sera sur un cheval blanc. Il nous prendra avec lui. Il sera finalement proclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 11 et 15 nous dit, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Notre avenir, il est glorieux. Notre avenir, il est glorieux. Vous n'avez pas compris, hein? Notre avenir, il est glorieux. Notre avenir, il est glorieux. Notre avenir, il est glorieux. Mais malheureusement, pour ceux qui refusent le fait qu'il l'était, qu'il a été, qu'il est, qu'il sera, il sera le juge. Apocalypse 11 nous dit, « Les nations se sont irritées et ta colère est venue. » Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignaient ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il sera dans l'éternité notre merveilleux conseiller, notre Dieu fort, notre Père du siècle, notre prince de paix. Il sera notre lumière, notre gloire, notre unité, notre perfection. Il sera notre amour, notre bonheur éternel, le sujet de notre adoration éternelle. Et non, comme Joseph, mon frère, Mike, nous ne serons pas sur des nuages en train de jouer de l'harpe pour de l'éternité. Nous serons occupés, nous serons restaurés, comme dans le jardin d'Éden où il a confié la terre aux hommes pour qu'ils la cultivent. Nous aurons d'autres anges dans l'éternité. Mais ces anges seront glorieuses, sans souffrance, sans sueur, sans difficulté. Alléluia, sans péché, sans tannant, sans tannerie, sans fatigant, sans fatiganterie. Mais nous serons dans la gloire éternelle, en paix éternelle, dans un monde parfait. Il était, il a été, il est et il sera. Voilà pourquoi il est celui qui est. Je suis celui qui est. Pour nous, il était, il a été, il est et il sera, parce que nous vivons dans la dimension du temps. Mais pour lui, il est. I am that I am. Voilà pourquoi il est le grand je suis. Et toi? Si tu es en lui, tu seras éternellement. Dans sa présence, donnant gloire à celui qui est éternellement. Hey! Ça fait-il pas du bien à notre âme de méditer sur qui est Jésus-Christ? Et moi, je ne suis pas contre les signes et les prodiges. Par contre, la seule chose qui demeure en tout temps, peu importe les circonstances, peu importe les maladies, peu importe le défi, la seule chose qui demeure en tout temps, c'est Jésus-Christ. Et le fait qu'il est. Ça va bien? Il est. Ça va mal? Il est. Je suis guéri, il est. Je suis pas guéri, il est. Il est, il est, il est. Il est. Maintenant, si je vous repose la même question, quel est le verbe le plus important? Être. Et rappelez-vous, lorsque vous dites le verbe être, vous êtes en train de dire le nom de Dieu parce qu'il est. He is. He is. He is. He is. You are. You are. And because you are, I am. Pas I am that I am, là. Je suis pas en train de dire je suis Dieu, là. Mais je suis. Je suis en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'inviterai les musiciens peut-être pour un dernier chant.